Le bonheur, c'est l'indépendance. D'abord, c'est la liberté et l'indépendance. Par là, j'entends que, puisque je suis une femme, mon bonheur ne dépend pas de quelqu'un d'autre.
Le 8 mars est célébré chaque année la Journée internationale des droits des femmes.
Je crois que je l'ai ressenti quand j'avais 10 ans. Je voulais dire non à cette injustice contre moi d'abord, contre les autres filles.
Donc vous êtes Julia Lyon et vous êtes réalisatrice. Vous êtes aussi du comité 50-50. Vous êtes en fait partie activement en tout cas.
Je soutiens le comité, on va dire 50-50, mais non, je suis pas du tout active à cet endroit-là. Je suis réalisatrice, mais c'est presque résiduel dans mon parcours. Je suis surtout directrice de casting. Mon métier, c'est surtout celui-ci.
Alors, vous avez beaucoup parlé sur scène de l'importance de genrer aujourd'hui. Et quand on est directeur de casting, et là par contre, là c'est central dans le métier, puisque justement, on parlait de la représentation au cinéma. On parlait de comment est-ce que le cinéma peut donner, déjà, est-ce que le cinéma peut donner de la représentation d'idées de genre déjà, ou de sexualité. Est-ce que c'est un des pouvoirs du cinéma ?
Alors, je pense que c'est un des pouvoirs majeurs du cinéma de représenter le monde, et donc dans le monde évidemment les questions peuvent être toutes genrées, toutes les questions peuvent être prises sous ce prisme-là. Et je disais sur scène que le cinéma avait une responsabilité massive, voire écrasante. Et chaque personne qui fabrique du cinéma, à quelque endroit que ce soit, je pense, doit se sentir responsable d'une éthique, après, quelle qu'elle soit, mais d'une éthique. Le cinéma, jusque-là, a quand même, et la littérature en général, essentiellement reproduit des normes, en représentant à peu près toujours quelque chose qui était du même ordre, c'est-à-dire que on a représenté des hommes se comportant d'une certaine manière, des femmes se comportant d'une certaine manière, et qu'à force de le voir, on a tendance à se projeter et à intérioriser cette chose-là. Par exemple, en Corse, on voit bien, alors je fais du casting en Corse moi depuis 20 ans, depuis 2003, oui, donc ça fait presque 20 ans, et je vois bien comment, quand des réalisateurs et des réalisatrices écrivent un scénario, ils représentent toujours un cliché. Où il l'interroge parfois, mais quand même il le représente, même en l'interrogeant il le représente, et pour moi c'est devenu parfois douloureux d'avoir toujours représenté l'homme corse comme un homme dominant, un homme puissant, un homme viril, alors qu'être corse c'est plein d'autres choses que ça, plein d'autres possibilités que ça, et en tant qu'homme et en tant que femme, etc. Mais par exemple les comédiens corses qui étaient moins dans ces stéréotypes là tournaient moins, n'étaient pas choisis par les réalisateurs. Les femmes blondes, par exemple, étaient moins choisies par les réalisateurs, parce qu'une femme corse, elle est censée être brune, elle est censée être un peu agressive, un peu de mauvaise humeur, elle est censée être puissante, elle est censée être très belle. Quand on est moche, blonde et gentille, je ne sais pas si on est encore corse, en fait, du coup. Non, mais du coup, quand on est une petite fille et qu'on regarde ça, on s'identifie aussi à cette chose-là. Quand on est un enfant et qu'on grandit en Corse et qu'on se voit à travers les yeux du monde, on se dit, pour être normal, pour être validé par le monde, je dois ressembler aux autres. Et donc, du coup, le cinéma, qui représente des histoires avec une incarnation, contrairement à la littérature, qui écrit, mais ça n'est pas incarné, ça refabrique de la norme. C'est pour ça que je pense...
Par exemple, on en parle souvent de la représentation de la femme au cinéma, qui est toujours, même si elle est plutôt blonde d'ailleurs, ailleurs qu'en Corse, mais des belles femmes, des femmes qui ont un physique qui est très normé, dans les cadres de la beauté, des normes de beauté, qui sont là pour le coup plus issues du monde de la mode. C'est un peu le monde de la mode qui choisit, et le cinéma qui s'adapte. Et justement, est-ce qu'aujourd'hui, même lorsqu'on veut représenter une femme corse, est-ce que, déjà c'est une bonne question ça, est-ce que prendre une femme blonde, ça va représenter la femme corse dans l'imaginaire collectif? Il est là aussi la difficulté du cinéma, c'est que des fois on doit parler sans, on doit montrer sans parler, et est-ce que montrer une femme blonde typée pas méditerranéenne, ça permet de renvoyer directement à l'imaginaire qu'on tente de faire passer?
Mais en fait, pouvoir montrer une pluralité, c'est ouvrir un peu, c'est donner un peu d'air au monde, et moi je suis un peu pour ça. Alors peut-être c'est naïf, peut-être c'est idiot, peut-être c'est pas intéressant. Moi je suis un peu pour représenter le monde de façon plus diversifiée, pour que chacun puisse avoir un peu d'air dans sa propre construction. Blonde, c'est un détail, mais de la même manière, est-ce qu'on a représenté au cinéma massivement des femmes qui soient dans des positions de pouvoir et qui soient handicapées, qui soient grosses, qui soient en dehors des stéréotypes? Alors, j'en ai pas vu beaucoup, quoi. Donc, effectivement, quand on regarde le monde à travers la représentation qu'on en fait au cinéma, on a tendance à penser que le monde est comme ça et que du coup on doit être comme le monde nous représente. En fait, je sais pas, moi dans ma famille, toutes les femmes sont, enfin pas ma mère d'ailleurs, elle est brune, et ma sœur aussi, mais ma tante est blonde, ma grand-mère est blonde, elles sont corses quand même, hein. Moi je suis blonde.
Mais justement, vous êtes corse. Mais en fait, oui, il y a cette question de la représentativité du cinéma. Et j'avais une question, je l'oubliais. Bon, c'est pas grave, ça m'arrive. Mais non, par contre, on pourrait rebondir sur ce qu'une jeune fille a dit. C'est quoi l'impact de cette représentation, à votre avis, hein, donc on a tous un avis sur ça. Parce qu'on a une jeune fille qui a pendant la table ronde, qui a intervenu et qui disait: moi je me suis construit au final avec des figures qui ont été représentées par des hommes, et aujourd'hui je me sens femme, mais je me comporte comme un homme parce que ces figures là c'était ces figures là auxquelles je m'identifiais le plus facilement, des brouillards costauds, machin, un peu manuel. Alors comment on fait pour changer profondément ça?
La première conséquence de ça, c'est déjà de dire que être des brouillards, c'est déjà se comporter comme un homme, ce qui est quand même une aberration, c'est quand même une folie. Tous les hommes ne sont pas des brouillards, et toutes les femmes ne sont pas malhabiles. Donc effectivement, on a quand même tendance à penser tout de suite que dès qu'on est un peu doué de ses mains, dès qu'on a envie d'être un peu mobile avec son corps, c'est être masculin. Dès qu'on a de la sensibilité, on dit: ah, cet homme il a beaucoup de féminité, il est sensible. Tout ça est une aberration en réalité, et effectivement c'est entré dans le langage, c'est entré dans nos propres représentations. Comment on fait? Encore une fois, je crois qu'on doit faire, c'est représenter les choses de manière plurielle. Il s'agit surtout pas de dire on ne doit pas, ça m'intéresse pas moi de faire ça. En revanche, de pouvoir avoir plus de représentations, ça m'intéresse. Et effectivement, de pouvoir se dire: je suis une petite fille et j'ai envie de grimper dans les arbres, ça, c'est féminin. Si je le vois au cinéma, si je le vois à la télé, si je le lis dans la littérature, peut-être que j'arrêterai déjà de me dire que ça appartient aux garçons, et du coup je me sentirai plus libre avec ça. Elles étaient nombreuses à dire quand même dans la salle qu'effectivement elles ont eu envie de s'approprier des choses qu'on donnait aux garçons, et que du coup on les appelait des garçons manqués. J'ai rarement entendu des garçons dire que quand ils étaient enfants c'était des filles manquées, alors que des filles qui disent qu'elles ont été des garçons manqués, il y en a plein. Moi j'étais un garçon manqué, mais on est vraiment très nombreuses à penser ça, et en fait on est juste des filles qui avons eu envie de vivre avec nos corps délurés, comme disait Dolto, c'est-à-dire libres, et ça appartenait pas du tout au féminin. Tout ça ne serait pas grave si c'était juste une histoire de pouvoir grimper dans un arbre, c'est pas très grave de pouvoir monter ou pas monter. En revanche, le problème c'est que le corps des femmes est sexualisé. On ne représente les femmes que dans la possibilité qu'elles soient validées par le regard des hommes, qu'elles soient des amoureuses, ou qu'elles soient des mères, ou qu'elles soient des femmes, ou qu'elles soient des grand-mères éventuellement. Et que finalement, ça c'est très étouffant, mais au-delà de ça, ça fabrique aussi une culture dans laquelle les garçons ont massivement, dans l'idée que pour être des garçons à part entière, il faut qu'ils soient dominants avec les femmes, élégants, mais quand même dominant, et que les femmes doivent être à disposition des hommes, en faisant la gueule s'il le faut, et en se faisant respecter, mais à disposition. Et ça fabrique quand même une société dans laquelle il y a un nombre incalculable, et je dis incalculable parce que ça n'est pas quantifiable, mais un nombre incalculable de viols chaque année en France et partout dans le monde. Et quand je dis que ça n'est pas calculable, c'est que personne ne sait au fond combien il y a de viols, parce que la zone grise qui est que ça commence où un viol, est-ce que c'est la nuit dans un parking en agressant quelqu'un, ou est-ce que c'est quand la nana n'est pas capable de dire qu'elle n'avait pas envie et qu'elle s'estime violée derrière, tout ça fabrique des choses qui sont très complexes, mais surtout très douloureuses, et que le viol, c'est déjà une chose horrible. Et puis si on commence à parler des féminicides, et si on commence à parler effectivement de la manière dont certaines femmes sont traitées au quotidien, c'est des choses qui sont pas anecdotiques, qui sont pas légères. Et même si dans les films le film que j'ai présenté là aujourd'hui, un film sur lequel on peut rire, c'est détendu, bon, voilà, c'est quoi un homme, c'est quoi une femme, machin, mais au fond, c'est quoi un homme et c'est quoi une femme? Ça fabrique de la violence, en fait. Ça fabrique des mecs qui sont terrifiés à l'idée de ne pas être suffisamment masculin, et que du coup ils se disent, mais si elle m'échappe, alors du coup alors je suis une merde, alors du coup je vais la frapper pour qu'elle reste, ou je vais la dominer pour m'accaparer. C'est très douloureux pour eux aussi. Ça fabrique beaucoup, beaucoup de douleur, tout ça.
Justement, c'est genre quoi, une sorte de reportage, oui, c'est ça, c'est un film documentaire. Et dans ce film documentaire, on voit des questions qui provoquent presque de la déconstruction. Dans le sens où là, on parlait de la douleur, en effet, le patriarcat impose des douleurs aux femmes. Je l'imagine, puisque je ne peux pas le dire, mais aussi aux hommes, puisque moi ça je peux le dire, parce que, en étant un, mais aussi aux hommes, de façon, parfois on se déconstruit, et des fois on a un regard sur des comportements passés, en se disant, putain, mais quelle horreur, je veux dire, comment on peut avoir fait ça, et nous, quand on discute entre garçons, parce que ça arrive, on fait ça, justement, il y a toute cette question-là de la déconstruction, qu'est-ce que ça implique, et vous, dans votre reportage, il y a des moments assez puissants, où par le questionnement, par des questions qui sont très simples, on voit des hommes dérouler le fil de leur pensée et rigoler. Des fois, on rigole pas tant de ce qui est dit, que des fois de la gêne du moment, où est-ce que l'homme rigole de lui-même en se disant qu'est-ce que je suis en train de dire, et il se rend compte du ridicule de la situation, nous aussi, et on se retrouve pris dans cette espèce de moment gênant de qui est très impactant, j'ai trouvé. Et ça, c'était pas ressorti sur les questions, il y avait beaucoup il parle des femmes, mais on voit qu'il y a une gêne au moment de le dire, parce que là, en face, il y a des gens qui ont passé, qui ont fait des étapes de déconstruction très importantes, et ils se rendent compte de ce qu'ils sont en train de dire et de l'impact que ça a. Comment on gère, enfin, c'est formidable, ça.
Ah bah, ça, moi, je trouve ça passionnant, et c'est bien pour ça que je fais des films. Après, ce que je trouve très joli aussi, c'est que il y a aussi beaucoup de personnes pour qui la question du genre est une question gourmande et joyeuse et agréable. Il y a des mecs qui sont très à l'aise dans la position et dans le genre qui leur a été assigné, dans lequel ils se trouvent très joyeux, très heureux d'être dans un rapport de galanterie avec les femmes. Il y a des femmes qui se sentent très heureuses et très à l'aise avec leur genre féminin. Dans le film, là c'est la série, ce documentaire est genre quoi, c'est une série, mais il y a aussi un film qui s'appelle viril.e.s et qui est la même chose mais de manière un peu plus démonstrative. Il y a une femme qui dit une chose qui me touche beaucoup, qui dit, mais moi j'aime bien être un peu dominée par les hommes, j'aime bien que les mecs soient un peu dominants, j'aime bien qu'un mec soit un peu viril, et j'aime bien être un peu soumise à ça, ça me fait du bien, j'y prends du plaisir. Et en fait, il faudrait pas arriver à un discours qui soit un discours qui ne mette en lumière que la souffrance. Et parce qu'il y a du plaisir aussi à être un homme ou à être une femme, il y a du plaisir à commercer avec l'autre sexe ou avec l'autre genre, bien sûr. Ce qui me semble important, c'est de ne pas écraser la parole ou la représentation par une chose ou par l'autre. Ça n'est ni que du plaisir, ni que de la souffrance. Mais il y a de la souffrance aussi. Et effectivement, il y a de la souffrance, y compris pour les hommes qui n'ont pas forcément tout de suite réalisé ce qu'ils avaient à perdre à jouer l'hypervirilité, à prendre en charge tout le temps. Il y a un épisode qui s'appelle « Genre quoi, c'est pas aux filles de payer ?» et il y en a un moment qui dit « Bon, c'est cher quand même. Hein. Oui, d'accord, c'est sympa de pouvoir inviter tout le temps. Enfin, c'est cher. Ça implique des choses qui sont, là, c'est pas douloureux. Mais ça implique aussi de jamais pouvoir accéder à un certain type de sentiment, à un certain type d'émotion, à un certain type de comportement avec ses enfants. Et alors ça, dans chaque société, c'est différent. Les pères en Corse, ils peuvent être très présents avec leurs enfants. Là-dessus, j'ai l'impression qu'on n'est pas très, très tyrannisant avec les pères ici. Les pères sont souvent très câlins avec leurs enfants. Mais...
Même des hommes très virils, ils ont un rapport, on a un rapport charnel à l'enfance, aux parents, qui est bénéfique, je pense.
Oui, mais c'est pas le cas de partout, et je pense que ça peut être une grande douleur en fait. Mais aussi de se sentir nul, d'être un garçon, de pas être né très grand, de pas être musclé, on peut se sentir, je pense, très très abîmé par cette question-là, par la nécessité de démontrer quelque chose socialement et de se retrouver face à des nanas à un moment parce qu'il va bien falloir y aller. Et on nous a pas appris comment on devait commercer les uns avec les autres, comment on devait s'entendre. Et alors du coup, on y va un peu comme ça. De façon agressive. Il y a un garçon dans Genre quoi, l'homme corse, qui dit ça, qui dit, mais moi je réalise maintenant, parce que je suis un peu plus âgé, il a 35 ans, il dit, mais moi quand j'ai commencé à draguer des filles, je me rendais, la seule chose que je pouvais faire c'était les agresser en fait. C'est le seul moyen que j'avais de leur dire qu'elles me plaisaient, c'était de les agresser. Et je pensais pas être méchant, mais c'était un gentil garçon. Mais on lui avait pas appris qu'il pouvait faire autrement. Mais comme, par contre, on lui avait appris qu'il fallait qu'il soit dominant, pénétrant, etc. Du coup, il fallait qu'il démontre qu'il était ça. Et alors, dans un lit, alors après, dans l'intimité, évidemment. Ça passe par des choses qui sont un peu risibles parfois, mais catastrophiques souvent, quand même, de maladresse, d'incapacité, et l'incapacité à prendre du plaisir là-dedans. Is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go. You need to let it go. Need to let it go. My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go. You need to let it go. Need to let it go. No. First you gonna say you ain't running game, thinking I believe in every word. Call me beautiful, so original, telling me I'm not. My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. Down to the eye, to the no, no, no. My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. Down to the eye, to the no, no, no. Thank you in advance, I don't wanna dance. Nope. I don't need your hands all over me. No, no. If I want a man, then I'ma get a man. But it's never my priority. Hey. I was in my zone before you came along. Don't want you to take this personal. Blah, blah, blah. I be like, nah, to the I, to the no, no, no. All my ladies, listen up. If that boy ain't giving up, lick your lips and swing your hips. Girl, all you gotta say is, my name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. Down to the I, to the no, no, no. My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. Down to the I, to the no, no, no. I'm feeling untouchable, untouchable. I'm feeling untouchable. No, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go.
it go. Need to let it go.
Down to the high, to the no, no, no. My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go. You need to let it go. Need to let it go. Down to the high, to the no, no, no. Untouchable, 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 untouchable. Down to the high, to the no, no, no.
Ça, c'était une grande question qu'on a régulièrement sur l'antenne. Des fois, on anime une libre antenne où est-ce qu'on parle, on va dans les bars et en fait, on parle de plein de sujets, dont le sexe et la capacité à prendre du plaisir. Et justement, on a appelé ça le patriarcat, dans le sens où c'est le fait, hein, c'est la domination des hommes, mais ça invisibilise, mais ça fait oublier que tout le monde en chie de ce truc-là. Et nous, notre génération, on a été élevés là-dedans. Nos parents ont été élevés là-dedans et en fait on s'est rendu compte presque trop tard de ce que ça impliquait. On est déjà formé par le patriarcat, on a déjà été moulé par le patriarcat de façon à... Après, même sans patriarcat, un rapport de domination consentie peut être très agréable, évidemment, que ce soit garçon-fille ou fille-garçon. Mais nous, on a été moulés par le patriarcat. Est-ce que notre génération n'est pas un peu foutue déjà par le patriarcat, par ça, par ces rapports qui sont un peu mortifères? Et est-ce que nous, ce qu'on peut faire à notre humble échelle, c'est élever nos gosses loin de ça, et là, il y aura du 50-50 dans la société, sans imposer de quotas, parce que y a 50% de filles, 50% de garçons, et qu'il y a 50% de...
Alors moi, ce que je crois, c'est que tout ça est complexe et difficile, mais pour autant, chacun arrive un peu à négocier avec son propre espace de plaisir, un peu dans son coin. C'est pour ça aussi qu'on a besoin de représentations massives de tout ça, pour décomplexifier, déculpabiliser les uns et les autres, de jouir chacun à sa manière. Ça, je crois que c'est important. Mais je suis en train d'écrire un autre film en ce moment pour lequel j'interroge plutôt la question de la sexualité que la question du genre. Et notamment en interrogeant beaucoup de personnes qui se prostituent sur qu'est-ce qui se passe en fait dans l'alcôve. Et en vrai, les personnes qui se prostituent racontent souvent que des hommes qui viennent voir des TDS, des travailleuses du sexe, viennent souvent avec deux demandes qui sont soit d'être soumis, pénétrés notamment, soit d'être câlinés. Et de pas justement performer du masculin. Ça veut dire quand même que si cette demande elle est aussi massive dans cette alcôve-là et qu'elle est pas tellement représentée par exemple dans la sexualité au cinéma, etc., ça veut dire quand même que chacun arrive à trouver des espaces où il peut négocier. Parfois c'est en payant, parfois c'est dans la honte, parfois c'est... Mais je crois aussi que justement le fait que ce soit un peu caché, un peu honteux, ça refabrique de la violence. Et ça refabrique des moments où des mecs qui pourraient négocier ça dans leur petite intimité... socialement rejoue quelque chose de l'ordre de la domination et du coup sont hyper agressifs et sont un peu violents.
Tout le monde en chie au sens propre, parce que nous, on a, par exemple, en tant que jeunes, on n'a pas forcément une sexualité qui est tout à fait finalisée, on n'a pas fini de maturer, hein, même à 23 ans, on se découvre encore et tout ça, pour les garçons et surtout pour les filles. Dans le sens où comme on a imposé aux filles une espèce de vision pure et immaculée de à la fois de leur propre corps et de leur propre sexualité, aujourd'hui on se retrouve, nous par exemple garçons, à devoir, alors moi par exemple, hein, petit exemple, on en discute souvent sur Neb, presque de devoir expliquer à des filles ou des filles qui se retrouvent presque à devoir chercher c'est comment on fait pour s'épanouir dans notre vie sexuelle. Et justement là, est-ce que le cinéma, est-ce que comment on éduque les gens, c'était il y a pas longtemps on discutait de ça, de l'éducation sexuelle, est-ce que le cinéma, le média, en fait, le média audiovisuel peut avoir un impact fort, et comment on fait pour éduquer les gens à leur corps, à eux, tout simplement?
Eh ben, on montre. Je crois que, à nouveau, on montre. Si on regarde un peu dans l'histoire du cinéma les représentations de la sexualité, on est quand même dans une espèce de pauvreté terrifiante et un peu toujours la même chose. Soit on est dans une sexualité qui se passe bien, et dans ces cas-là, c'est un homme qui pénètre une femme. La sexualité s'arrête au moment où il a eu un orgasme. Et les femmes organisent leur séduction autour de la possibilité d'être choisies pour faire plaisir sexuellement aux hommes. Et bon, et elles y prennent sans doute parfois un peu du plaisir. En revanche, par exemple, la question du consentement, non pas comme une espèce de contrat débile qu'on passerait sur lequel on devrait signer quelque chose, mais un moment d'annoncer ce qu'on a envie de partager et de pouvoir se demander si on est OK avec ça. Moi, je ne l'ai jamais vu au cinéma, par exemple. La première fois que je l'ai vu, c'était Zaya qui pénétrait le corps de son amant dans Une fille facile. C'est Rebecca Zlotowski et c'était il y a 5 ans, enfin, c'est un film très très récent. Sinon, je n'ai jamais vu que la sexualité pouvait ressembler à ça. Et donc, comme je ne l'avais jamais vu, je ne le savais pas, en fait. En revanche, ce que j'ai vu 1000 fois répété au cinéma, c'est une femme qui faisait semblant qu'elle n'avait pas envie d'avoir de la sexualité avec un homme. Parce que l'assumer, ça aurait été se comporter de manière beaucoup trop démonstrative. Donc assumer et annoncer son désir, c'était pas possible. C'est ça que j'ai appris par le cinéma. Qu'il fallait avoir l'air de minauder un peu, faire semblant qu'on n'avait pas envie, mais quand même se rendre disponible. Et qu'à un moment, le mec allait venir en force. Des fois, t'es comme une conne et t'attends qu'il vienne. Parce que tu te dis, comment il a pas compris qu'il fallait qu'il vienne? Ben oui, mais tu le dis pas. Non, ben, je le dis pas, mais il est censé comprendre. Comment il comprend? Et alors après, il doit venir, t'attraper un peu par les cheveux, te secouer un peu. Et la question du consentement là-dessus n'existe pas. Ça s'appelle un viol en fait. Attraper quelqu'un par les cheveux, la pénétrer sans lui demander si elle en a envie, pendant qu'elle fait semblant qu'elle en a pas envie, donc elle montre qu'elle n'en a pas envie, c'est un viol. Mais à la fin, elle va finir par se pâmer de désir et de plaisir, parce que finalement, c'est quand même ça qu'elle attendait. C'est quand même ça que nous a montré massivement le cinéma. Des scènes de viol, on a grandi avec. Et on a pensé que c'était OK, et on y a pris du plaisir. Et on s'est senti stimulé sexuellement avec ces images de ces hommes qui prenaient, des Clark Gable et d'autres hommes comme ça, qui prenaient en charge la sexualité tout seul, face à des nanas qui disaient non, 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 et qui finalement finissaient par fondre de plaisir. Catastrophe.
Catastrophe pour les hommes, pour les femmes, puisque après comment on devine la foi de trop, où en fait elle était vraiment pas d'accord, la fille est mince, et comment on se retrouve le cul par terre en disant c'était un viol, et ça arrive beaucoup trop souvent, et du coup là la question c'est est-ce qu'on peut en sortir petit à petit, justement, est-ce que le cinéma il se dirige pas dans la bonne direction, et par exemple des gens qu'on n'aime pas trop, les Américains, qui commencent à faire des quotas très stricts, un peu à leur façon, ils ont déconstruit à leur façon, c'est-à-dire que contrairement à où en France on essaye de faire évoluer les mentalités, eux ils font évoluer la légalité, et du coup est-ce que c'est quoi la meilleure des manières, c'est faire évoluer la légalité ou faire évoluer les mentalités?
Je serais bien prétentieuse si je pouvais dire ça c'est la bonne manière et ça c'est pas la bonne manière, et je suis pas à ce point la prétentieuse. Par contre, si je crois que le cinéma a une responsabilité massive dans ce qu'il a produit d'images et dans l'impact que ça a eu sur les jeunes consciences de génération en génération et dans les reproductions de ces normes-là, alors je crois aussi qu'à force de montrer autre chose, on va finir par réaliser autre chose. Je pensais tout à l'heure, parce que je marchais dans la rue droite et au détour d'une fenêtre, il y avait la musique de Foria qui gueulait dans la rue, et je me disais quand même l'impact de cette série sur la jeunesse, comme l'impact qu'a eu la série Girls il y a quelques années de ça, c'est quand même le signe qu'on est très friand d'avoir des représentations autres que cette espèce de stéréotype moisi qu'on continue à nous servir et qu'on sait très bien qu'on n'en a plus du tout envie. Girls, c'était la première fois qu'on voyait à l'image une jeune femme libre sexuellement, qui avait des bourrelets, dont le corps était gros, dont le corps était beau, et qu'elle jouait pas le rôle d'une grosse. Elle jouait le corps d'une personne, et il s'avère que cette personne avait des bourrelets, et ça a fait un bien, mais c'était la première fois qu'on voyait ça, et qu'elle n'était pas traitée comme une personne grosse, mais qu'elle était traitée comme une personne, et l'engouement que vraiment les jeunes générations ont eu à l'époque de Girls et là pour Euphoria, je trouve que c'est le signe quand même que ces représentations, on en a vraiment besoin, on les attend, on les veut, on les désire, et qu'elles nous font du bien. Je crois vraiment qu'à force de représenter autrement les rapports entre les hommes et les femmes, mais on dit les hommes et les femmes, mais c'est pas seulement les hommes et les femmes, c'est les gens, parce que est-ce que tout le monde se sent un homme ou une femme? Non, il y a des gens aussi qui se sentent autre chose que ça, et il y en a que ça fait rire, c'est ok que ça fasse rire, parce qu'effectivement c'est bizarre, c'est nouveau, alors du coup c'est bizarre. Moi je veux bien que ça fasse rire, ce qui m'emmerde c'est quand ça fait frapper, mais que ça fasse rire tant que c'est un rire de gêne et qui finit par faire apprendre entendre quelque chose dans la pluralité du monde, bon, ben, ok, c'est pas très grave. Quand le rire devient agressif, c'est autre chose. Mais n'empêche que massivement, on a besoin de ces nouvelles représentations, qu'elles nous font du bien, qu'elles changent la donne. Moi, j'ai quand même l'impression que les générations, je suis une vieille bonne femme, hein, mais que les générations qui arrivent après, peut-être pas la tienne, justement, parce que t'es aussi une vieille bonne femme, d'une certaine manière. Non, mais la jeune génération, mon fils, il a 17 ans, par exemple, 16 ans et demi. Il a eu sa puberté à l'époque de MeToo. Ça change la donne, ça change vraiment la donne. C'est très nouveau qu'on parle de ça. Les gamins qui aujourd'hui ont 12-13 ans vont grandir dans un monde où les représentations sont, même si on s'écharpe, on se fout sur la gueule, là sur le plateau, on n'était vraiment pas du tout d'accord les unes avec les autres. Il y avait de la tension dans l'air. Bon, on n'est pas d'accord, ok. Mais n'empêche qu'il y avait une gamine qui avait 14 ans dans la salle et elle assiste à ça. Elle va pouvoir quand même grandir avec des représentations du désir, de l'amour, de ce que c'est être un homme ou une femme ou autre chose, un peu plus libre que moi quand j'ai grandi. Hein.
Bah, par exemple, là comme image, elle avait quand même plusieurs femmes de tout âge sur un plateau qui répondent à des questions de façon pertinente. Ça, c'est des images par exemple avec lesquelles moi j'ai pas forcément grandi, même si je suis pas allé me balader dans toutes les manifestations culturelles de Bastia. Le fait est que c'était très rare il y a 10 ans ou il y a 15 ans ce genre de plateau avec pas un seul gars sur le plateau et de parler justement des questions de la femme. Et par exemple, pour terminer, on parlait un peu de la représentation du sexe. On a notamment des scènes qui sont apparues il y a quelques années qui n'existaient quasiment pas. La masturbation féminine, par exemple, où dans la plupart des séries maintenant, on accepte ça. C'est plus la fille, même avant qu'elle devienne sexuellement active, a gagné une sexualité qu'elle n'avait pas avant. Avant, c'était à gagner sa sexualité lorsqu'elle devenait sexuellement active. Et même pour aller plus loin, dans d'autres types de films, dans d'autres types de médias audiovisuels, la pornographie par exemple, on voit émerger, comme partout, de façon très grand public, un peu blockbuster, le porno pour filles, et de façon underground, du porno féministe, réalisé par des féministes, pour là encore une fois, même dans ce milieu hétéronormé, et même des fois homonormé, mais qui est terrible là, qui est la même merde, et là où très très... très très patriarcal, qui véhicule des images de l'enfer, et ben là on a encore, même là on a des gens qui militent, qui arrivent à imposer des images bénéfiques.
Oui, mais alors c'est beaucoup de questions, hein, là. En une question, c'est beaucoup de questions. Là où on n'est pas sorti de l'auberge, c'est que le porno dont tu parles, c'est quand même un porno payant et que je connais personne qui paye le porno en fait, à part des gens très militants et qui en ont marre de se masturber sur des images de viol. Ça c'est une première chose. La deuxième, c'est qu'effectivement tu as assisté là à un débat autour de femmes qui sont réalisatrices, etc. Il n'y avait quasiment pas d'hommes dans la salle, à part des journalistes, mais sinon, il n'y avait quasiment pas d'hommes. Ça reste quand même un festival de films de bonnes femmes et que les hommes ne se sentent pas concernés. Hier, j'ai compté pendant le débat, pendant que Julie Gayet parlait, en dehors des journalistes, il y avait 9 hommes dans la salle. Et sur les 9 hommes, il y en avait 2 qui étaient venus seuls. Tous les autres étaient venus accompagnés ou tirés, peut-être traînés ici par leurs bonnes femmes. Donc peut-être tu n'y aurais pas assisté non plus, finalement. Et puis quand même, ce débat s'est terminé par un homme qui nous a dit comment on devait se comporter, qui nous a dit on ne doit pas s'enfermer, on doit être libre. C'est quand même un homme qui a eu le mot de la fin pour nous dire comment on devait faire. Hein.
C'est vrai, merci beaucoup. Je vous laisse le mot de la fin, alors je le prends pas. Un petit mot pour conclure quand même.
Bah, le mot peut-être pour conclure, c'est que la série Genre Quoi est sur Alindy, et que Alindy c'est une plateforme je trouve très importante, parce qu'effectivement elle défend le cinéma méditerranéen et le cinéma corse, et que on est quand même dans une période où on est en train de repenser un petit peu. Alors, on a pensé la question de l'insularité tout le temps, on le pense, on le met au travail, etc. Mais en ce moment on la repense encore, et c'est très bien. C'est important de s'approprier aussi la question de notre culture. Notre culture, elle n'est pas seulement ancestrale. Notre culture, c'est aussi ce qu'on fabrique aujourd'hui comme image, comme pensée, comme musique, en dehors seulement des choses traditionnelles. Et Aline dit justement de montrer ce que des jeunes réalisateurs... Je ne suis pas une jeune réalisatrice, encore une fois, mais il y a plein de d'images sur Aline dit qui sont vraiment super importantes à regarder. Et bon, voilà, abonnez-vous à Aline dit, allez regarder des films, notamment Genre quoi, si ça vous intéresse. Il y a plein de films corse, sardes, méditerranéens en général qui sont vraiment passionnants et le travail que font l'équipe d'Alindy est vraiment...
Le bonheur, c'est l'indépendance. D'abord, c'est la liberté et l'indépendance. Par là, j'entends que, puisque je suis une femme, mon bonheur ne dépend pas de quelqu'un d'autre.
Le 8 mars est célébré chaque année la Journée internationale des droits des femmes.
Je crois que je l'ai ressenti quand j'avais 10 ans. Je voulais dire non à cette injustice contre moi d'abord, contre les autres filles.